Vous écoutez RTL.
Nicolas Arpagian, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Arpagian, par quel réseau Internet passe la propagande islamiste ?
En fait, elle passe par tous les médias possibles. D'ailleurs, ils disposent d'un département, le Halayat Media Center, et qui va pouvoir produire des contenus vidéo destinés aux réseaux sociaux, oui, mais également éditer des magazines. On pense notamment pour l'État islamique à Dabiq, c'est-à-dire un magazine en PDF, donc très facilement accessible à partir de n'importe quel moteur de recherche, d'autant plus qu'il est traduit, donc d'autant plus accessible à un public très large.
Qui alimente et enrichit ces programmes Où sont-ils, ces gens-là ?
Alors en fait, ce sont des programmes qui sont élaborés déjà avec un grand sens du professionnalisme, un grand sens de l'esthétisme. C'est-à-dire, oui, qu'on voit bien que celles et ceux qui les produisent le font pour s'adresser à un public qui a l'habitude de lire des magazines, qui lit, qui regarde des vidéos, qui est un consommateur d'Internet. Effectivement, dès lors qu'on est dans le numérique, la localisation géographique a peu d'importance puisqu'il s'agit de contribuer, d'alimenter ces sources d'informations. Ils peuvent être n'importe où sur la planète.
D'accord. Alors donc, si je vous comprends bien, les réseaux en question par lesquels passent ces programmes, entre guillemets, sont essentiellement Twitter, Facebook et YouTube. C'est bien ça ?
Effectivement, ce qui est assez logique, puisqu'en fait, ils vont là où sont les gens. Quand vous voulez faire du prosélytisme, quand vous voulez convaincre un grand public, surtout des néophytes ou des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer beaucoup de médias ou en tout cas de lire beaucoup de livres, il faut aller là où ils sont, et d'autant plus s'ils sont jeunes, ce sont les réseaux sociaux qui ont en plus la capacité d'attirer les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc dès lors que vous commencez à mettre en avant des thèses qui peuvent être violentes, qui peuvent être politiques, qui peuvent être religieuses, l'algorithme, le petit mécanisme d'ailleurs qui est d'abord sert à réunir les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, fait qu'on va faire venir à vous les personnes qui partagent les mêmes préoccupations et donc qui, en l'espèce, soutiennent les mêmes causes que vous, les causes djihadistes. Donc on se retrouve, ce sont des médias à part entière.
Alors Twitter, Facebook et YouTube, si j'ai bien compris, ne sont que des hébergeurs de contenu. Quelle est la finesse du mot ? Ça veut dire quoi ?
Alors, c'est effectivement très important. Ça veut dire qu'ils sont, contrairement par exemple à RTL, qui est un média, c'est un éditeur. C'est-à-dire qu'il est responsable de ce qui est mis à l'antenne. Au contraire, les grandes multinationales de Californie, que sont Twitter, Facebook, YouTube, donc Google, plaident beaucoup pour le statut d'hébergeur. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de responsabilité a priori sur ce qui est mis en ligne et que, effectivement, c'est peut-être a posteriori, si des gens signalent alors ce qu'on appelle un contenu manifestement illicite, qu'ils apprécieront au cas par cas s'il y a raison de retirer ce contenu et donc de ne plus le rendre accessible. Mais on n'est pas du tout dans le cas d'entreprises qui estimeraient qu'elles doivent faire la police ou en tout cas apprécier éditorialement les contenus qu'elles soient à même à diffuser au plus grand nombre.
Et alors, si un État comme la France, par exemple, demande à Monsieur Twitter, Monsieur Facebook et Monsieur YouTube de supprimer un contenu, ils ne sont pas obligés de s'exécuter, on est bien d'accord, hein ?
Alors, en tout cas, d'obtempérer, oui, effectivement, il faut, alors dans la loi française, la loi de 2004, il faut que le contenu soit manifestement illicite. Mais alors le problème, c'est que on commence à rentrer dans une phase d'interprétation. En clair, les grandes plateformes comme YouTube considèrent par exemple qu'une vidéo de décapitation n'est pas forcément un contenu illicite dès lors que c'est un support d'information. C'est seulement si vous commencez à vous réjouir, à vous féliciter de cette décapitation, là ça devient de l'apologie de la violence. On voit qu'ils ont une appréciation presque esthétique, éditoriale, ce qui est un peu compliqué. Donc on a mis en place, suite aux attentats de Paris, effectivement une politique qui est d'essayer d'avoir justement des relations plus directes et donc effectivement d'ailleurs d'avoir ce qu'on appelle le blocage administratif de sites internet, c'est-à-dire sans passer par un juge, ce qui prend plus de temps, effectivement le fait d'imposer aux fournisseurs d'accès à internet de couper l'accès à certaines pages parce qu'elles sont considérées comme étant manifestement illicites. La seule chose, c'est que effectivement c'est page par page, et donc vous voyez que c'est un travail de titan à l'aune de ce que représente l'Internet. Il y a un rapport qui vient de sortir d'un magistrat qui a été désigné par la CNIL, qui est sorti au printemps, au mois d'avril, et qui voit on est sur un peu plus d'un millier de pages de sites Internet qui ont été signalés. Vous voyez que par rapport aux millions de sites Internet disponibles sur la toile, la disproportion est flagrante.
Si on imagine de poursuivre en justice les trois messieurs, la Twitter, Facebook et YouTube, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire supprimer tel ou tel contenu. Est-ce qu'on règle le problème ou est-ce qu'on le déplace parce que ça va aller ailleurs ?
Alors effectivement, la facilité de création de contenu, on n'est pas dans des médias, on n'est pas dans des entités qui ont vocation à durer comme un commerçant qui s'enorgueillit d'être là depuis très longtemps dans une ville et comme un gage de confiance. Là, on est dans une logique d'opportunité, d'opportunisme même. Ça veut dire que ces médias, si vous les fermez, c'est-à-dire vous limitez l'accès à leur contenu, en fait, ils vont se recréer rapidement. Et d'ailleurs, souvent, ils ont prévu dès l'origine, notamment sur les comptes Twitter, une procédure pour vous signaler déjà le compte suivant auquel il faudra vous connecter si d'aventure leur compte initial devait être interrompu.
Monsieur Arpagian, vous conseillez régulièrement les spécialistes de la lutte antiterroriste au ministère de l'Intérieur autour du ministre. Qu'est-ce qu'ils vous disent, tous ces gens, de cette situation complètement aberrante et apparemment contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose ?
Alors, effectivement, le problème, c'est que la France a essayé auprès de la Commission européenne de créer un statut justement responsabilisant ces hébergeurs, d'ailleurs les faisant glisser vers le statut d'éditeur. Manifestement, il n'y avait pas de volonté de la Commission européenne de suivre la France dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation un peu contrainte avec ces plateformes et les mettre face à leurs responsabilités. Alors, a été désigné au ministère de l'Intérieur un préfet en charge d'être l'interface en disant justement, voilà, au moins on a un interlocuteur, on sait à quelle porte frapper quand on veut le faire. La seule chose, c'est que vous voyez bien qu'on est toujours dans la position du demandeur, c'est-à-dire qu'on soumet au cas par cas, alors qu'il y a une abondance de contenu, on est toujours dans la négociation au cas par cas, qui évidemment fragilise ceux qui défendent l'état de droit par rapport à ceux qui ont la capacité de produire des contenus à grande échelle et sans limite technique ni financière.
C'est très clair. Merci beaucoup Nicolas Arpagian, directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études et de la sécurité et de la justice. Bonne soirée à vous, monsieur Arpagian.